voix nue. Cette semaine, Odile Conseil rencontre Jean-Paul Rapneau. Ce soir, une famille très inspirante. Jean-Paul Rapneau, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous accueillir dans votre bureau, qui est à l'extérieur de votre domicile. C'est l'endroit où vous travaillez, où vous écrivez, où vous dessinez aussi, mais toujours au service de vos films. C'est un lieu très sobre, où vos cahiers, notes, scénarios et croquis, relatifs à vos films, hein, toujours, s'entassent sur les étagères. Il y a un paravent peint pour votre mère, décor donc autant que souvenir, un piano où joue votre fils Martin, qui est musicien, des dessins de Max Douy, le décorateur du Sauvage, et une seule et unique affiche de cinéma. Il ne s'agit pas de celle d'un de vos films, mais d'un film dans le film, un film imaginaire dont Isabelle Adjani est la vedette dans Bon Voyage, où elle joue le rôle d'une actrice.
Oui, oui, c'est ça. C'est donc une sorte d'atelier pour moi. Parce que mes fils, pendant longtemps, m'ont vu partir le matin pour venir ici, venir travailler ailleurs. Mais quand ils se sont mis à travailler eux-mêmes, et d'ailleurs dans le cinéma, je dirais pas contre ma volonté, mais à ma grande surprise, quand ils se sont mis à travailler eux-mêmes dans le spectacle, un musicien et un metteur en scène maintenant, Julien, et c'est ici qu'ils venaient travailler. Donc ce bureau, on se le dispute maintenant. Donc j'espère qu'ils ne me chasseront pas peu à peu. Et vous parliez tout à l'heure, oui, des croquis de Max Douy, des maquettes de Max Douy pour Le Sauvage, notamment la maison que je lui ai demandé de construire sur une plage aux Bahamas. Mais c'était un honneur pour moi que Max Douy soit dans ce film avec nous. Il était déjà évidemment le grand décorateur dont j'ai admiré le travail depuis si longtemps, pour Renoir dans La Règle du Jeu, dans French Cancan, pour Clouseau dans Quai des Orfèvres, Autant Lara, Le Diable au Corps, et La Traversée de Paris, film que j'adore, avec des dialogues absolument sensationnels.
Donc nous sommes ensemble toute cette semaine pour évoquer votre parcours et votre vie de cinéaste. Vous êtes un cinéaste rare et précieux, l'auteur de 8 films vifs, où il est question de famille, de maison de famille aussi, et parfois d'histoire de France. Alors des maisons, on en trouve dans votre premier film, La Vie de Château, 1966, prix Louis de Luc, mais aussi dans Tout Feu, Tout Flamme, en 1982, avec Isabelle Adjani et Yves Montand, ou dans Belle Famille, votre dernier film en date, en 2015. Vous avez aussi signé de grands films d'aventure, qu'il s'agisse des Mariés de l'an 2 avec Jean-Paul Belmondo et Marlène Jobert, du Sauvage avec Catherine Deneuve et Yves Montand, du Hussard sur le toit avec Juliette Binoche, et puis l'immense Cyrano de Bergerac. Nous y reviendrons, bien sûr. Alors Jean-Paul Rapneau, on peut dire que vous êtes l'homme d'une seule et unique passion, le cinéma. Pouvez-vous nous dire d'où vient cette passion ?
Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout.
Si j'en crois un certain nombre d'interviews que vous avez données ici et là, c'est Citizen Kane que vous avez vu adolescent qui a été un déclencheur.
Non, alors ne blaguons pas, toujours. Bien que j'adore blaguer, heureusement, surtout sur les plateaux d'ailleurs, ce qui rend les tournages plus gais, me dit-on, que certains autres. Oui, c'est Citizen Kane que j'ai vu alors quand il est sorti en France, c'est-à-dire tardivement. C'est le film d'Orson Welles, donc tourné en 41, mais il n'était apparu en France qu'en 47. Et moi, je suis né en 1932, donc il y a bien longtemps. Et donc c'est 15 ans plus tôt que Citizen Kane. C'est-à-dire que pour des hommes de ma génération, des cinéastes européens en tout cas, il y a un certain nombre de ces cinéastes pour qui Citizen Kane a été aussi un déclencheur, et non des moindres, puisque c'est Miloš Forman, le grand cinéaste tchèque, qui me racontait ça un jour, que, comme moi, il s'est trouvé un jour dans une petite salle de c'était, je crois, en Slovaquie, et quand il a vu le film, il a dit, voilà le métier que je veux faire. Voilà. Bon. Mais ce dont j'aimerais parler, quoi, c'est de toutes ces années anciennes, donc avant la guerre, avant la dernière guerre, pour ceux qui savent encore ce que cela veut dire. Et j'ai été pendant ces années imprégné de tant de sensations, d'émotions, de choses vues, de lectures, de rêves, de spectacles, de séparations, de voyages, d'amour, de pertes, de retrouvailles, de tableaux aperçus, de lieux, de paysages, tout ce qui compose, tout ce qui fait que la vie peu à peu vous remplit. Et maintenant, je vois quand je pense à mes films, ou quand on m'interroge sur mes films, je vois qu'au fond, tout était en devenir dans l'expérience de ces années-là, quoi. À commencer par ce premier film. Et sans que je l'aie vraiment voulu, il est question d'un... Ça s'appelle La vie de château, il est question d'un château, mais un certain château a eu une importance considérable dans la vie de notre famille. J'aurais dire ça comment dans ces 15 années, toujours ces 15 années avant Citizen Kane, est né le goût du spectacle et aussi du récit, la chose racontée en images. Le récit, oui, le récit, j'ai été, avant même de penser à quoi que ce soit qui soit projeté ou joué sur une scène, c'était un très bon, disait-on, raconteur d'histoire.
On disait ça dans votre famille, c'était à vos frères et sœurs. Vous racontiez des histoires?
Mais déjà à toute la famille, dans les repas qui réunissaient justement toute la troupe, dans le château, Jean-Paul raconte-nous une histoire, à la fin du repas. Alors j'avais même, à vrai dire, dans ma poche un petit papier où toutes les histoires que j'avais entendues ou que je voulais raconter étaient là. Donc j'avais un répertoire sous la main. Donc c'est une enfance sans le cinéma et sans télévision dans cette ville de province, Auxerre, qui était, quand j'y repense aujourd'hui, comme je vois cela comme une ville encore du 19e siècle. Quand j'ai lu Balzac, j'avais l'impression d'être chez moi, d'avoir connu un peu ces histoires, scènes de la vie de province. Et on est là avant la guerre, donc. Et pour moi, le 19e siècle est encore là. C'est-à-dire que pour moi, il s'est arrêté en 1950. C'est d'ailleurs le moment où j'ai quitté, justement, la province pour venir à Paris. Je suis donc né dans cette ville, Auxerre. Mais mes parents, eux, venaient chacun d'ailleurs. Mon père était né dans le Morvan, et je vois encore la ferme de mes grands-parents où la porte de la pièce unique restait ouverte en permanence pour que la fumée puisse s'échapper du feu brûlé dans la cheminée, hiver comme été, avec souvent une marmite qui préparait quelque chose.
C'est un endroit où vous alliez pendant les vacances ?
C'était pas facile parce qu'il n'y avait qu'une pièce et une chambre où étaient mes grands-parents. Et dans la grande pièce, il y avait des petits lits où ma sœur et moi couchions parfois quand nous venions là. Oui, le souvenir ressemble à un tableau déjà, mais un tableau alors plus ancien, du XVIIe siècle. C'est Le Nain, là on est chez Le Nain.
Donc votre père a grandi là, au milieu d'une fratrie importante ?
Il y avait 4 frères, dont mon père, et une fille, donc 5 enfants. Les garçons, eux, ont été élevés dans la ferme, et chaque matin, allaient à l'école, partaient à pied, à plusieurs kilomètres. Et il paraît que l'hiver, chacun devait porter sous le bras, pour apporter à l'école une bûche, pour mettre dans le poêle de la classe. Mais enfin, la classe a eu pas mal d'importance. Parce qu'un jour, l'instituteur de cette école est venu voir mes grands-parents pour leur dire que leur fils, Jean Arsène, il s'appelait Jean Arsène, et au bout de quelques années, quand il est devenu grand, il a abandonné Arsène et il n'était plus que Jean. Mais en tout cas, l'Arsène, là, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait dans le village, l'Arsène, l'instituteur est venu dire qu'il allait sûrement avoir son certificat d'études, mais qu'il faudrait vraiment le laisser continuer après ça, en partant au collège d'Avallon, et puis ensuite au lycée à Dijon, jusqu'au bac, surtout, qu'il continue. Et finalement, il est arrivé à convaincre mes grands-parents, et le bac en question, c'est à Dijon qu'il l'a passé. Après, il est sorti de ce hameau par les études. Voilà, donc c'est le bac, c'est Dijon. Mais quand il a le second bac, c'est 14 ou 15, la guerre commence. Il fait une école d'artillerie, il part comme sous-lieutenant sur le front, il fait la guerre, enfin une partie de la guerre, il a fait 3 années, oui. À Verdun et d'autres lieux, il est blessé 2 fois, il revient lieutenant, croix de guerre, légion d'honneur. Il monte à Paris pour continuer les études et s'inscrit au lycée Saint-Louis, pour passer déjà les licences. Bon, alors,
Il va finir par rencontrer votre mère à un moment.
Oui, alors je suis peut-être un peu long, excusez-moi. Mais c'est une grande histoire. Enfin, pour moi, parallèlement à ça, en Suisse, au bord du lac de Constance, en Suisse alémanique, mon autre grand-père, fils d'un horloger, donc, comme toujours en Suisse, enfin comme souvent en Suisse, a quitté sa famille à 14 ans pour tenter sa chance au bord d'un autre lac, c'est-à-dire Genève. La France n'est pas loin, il traverse la frontière à bicyclette, et puis il découvre la France, la région de Bellegarde, où il se fait des amis, il devient pratiquement colporteur pour des produits suisses. Et ensuite, sa clientèle s'agrandit, il devient représentant en matériel électrique. Il comprend que là, il est toujours en France, finalement, il rentre de temps en temps chez un oncle près de Genève, il comprend que l'avenir est là, et pour faire court, devenu français, il se retrouve après la guerre de 14 à Orléans. Pourquoi Orléans? À la tête d'une florissante entreprise qui électrifie les campagnes. Le Loiret, mais aussi le Loiret-Cher, l'Indre-et-Loire. Il devient une sorte d'empereur de l'électrification. Et toujours pour faire court, Jean Arsène, qui n'est plus que Jean à cette époque-là, sort de l'école supérieure d'électricité avec un diplôme d'ingénieur. Et le grand-père d'Orléans, le Citizen Kane d'Orléans-les-Aubrais, comme je disais, souvent, cherche un ingénieur. Parce que lui, c'est un génie du commerce, le grand-père. Mais il n'a aucune connaissance technique. Donc il engage mon père. Il entre donc dans l'entreprise. Mon grand-père, donc, c'est Albert, que s'appelait-il. Et comme dans tous les livres, mon père, engagé par mon grand-père, tombe amoureux de sa fille, Anne-Marie. Ils se marient, les deux, là. Et je suis leur fils. Voilà, c'est la fin de mon aventure.
Vous n'êtes pas leur seul enfant, vous avez des frères et sœurs, j'en parle.
Ah, oui, aînée d'abord une sœur, ma sœur chérie Colette, nous étions six. Voilà. Alors, l'entreprise devient florissante, et beaucoup grâce au talent scientifique et technique de mon père. Donc, il y a une succursale à Poitiers, une autre dans la Vienne, une autre, ça finira même à Melun. Même une certaine partie de l'entreprise passe en Algérie, bien avant les soucis que les Algériens ont eu avec nous.
Toutes ces histoires familiales, c'est quelque chose dont vous étiez déjà nourri enfant, que vous avez reconstruit par la suite?
Ah non, nourri parce que, est-ce que j'ai dit que mon grand-père Albert, là, donc, celui d'Orléans, donc, avait aussi quatre fils? Bon. Et les quatre fils, tout le monde travaillait dans l'entreprise, cette entreprise qui s'agrandissait. Et en fait, ma mère était très attachée à ses parents, donc mon grand-père Albert a, d'accord avec mon père, a décidé de créer une succursale en Bourgogne, à Auxerre. Alors, mon père était donc venu du Morvan, mais il était donc quand même bourguignon, donc mon père part, est un missi dominici, et part donc à Auxerre, créer cette succursale d'Auxerre. Donc c'est à Auxerre qu'il s'installe avec ma mère, et c'est dans cette ville que ni lui ni ma mère ne connaissaient, et puis c'est là que nous avons grandi déjà les premiers dans un pavillon, au début, dans les années 31-32, puis ensuite, on est trois, alors il faut agrandir parce qu'il n'y a pas assez de chambres, donc on est dans une maison plus grande. Et puis, ce qui apparaît vite, c'est que ma mère a de grandes ambitions. Et puis d'ailleurs, il n'y a pas assez de place, donc du coup, mon père loue une grande maison pour faire un peu comme faisait Albert, le grand-père d'Orléans, qui lui, carrément, avait acheté une sorte de château, un peu en dehors d'Orléans. Pas une sorte de château, un château, mais qui s'appelait d'un nom plus modeste, qui s'appelait Bon Séjour. Non, ce n'était pas Chenonceau, mais c'était quand même une très grande bâtisse dans un parc. Et pendant des années, pendant toutes ces années d'enfance, en tout cas jusqu'à la guerre, quoi, tous les week-ends, nous partions, toute la troupe des Rapneaux, toute la troupe d'Auxerre, donc, à Orléans, chez le grand-père, pour notamment le déjeuner du dimanche, autour de la grande tablée, où était justement les quatre fils du grand-père, mes oncles, donc, pour lesquels nous, les enfants venus d'Auxerre, nous avions une adoration. notamment pour l'un d'entre eux, qui se prénommait lui aussi Albert, qui était un type absolument tordant. Mais tordant, je pense que c'est le... J'ai connu des grands acteurs, hein. Mais je crois que je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi, d'aussi drôle que mon oncle Albert. Et d'ailleurs, quand j'ai tourné avec Yves Montand, Tout feu, tout flamme, je lui avais dit, il disait, mais en fait, j'ai l'impression que tu as pris modèle sur quelqu'un pour aussi la vie qu'il avait menée, c'est-à-dire une vie de bâton de chaise, il est parti, il a quitté sa famille, toujours l'oncle Albert. Donc, d'une certaine manière, il est dans mes films, il est dans mes films. Les histoires de famille sont innombrables, ces 10 années-là jusqu'à la guerre, quoi, au fond, c'est un grand spectacle. C'est un spectacle. Entre l'environnement de mes grands-parents dans le Morvan et le château du Sizienkène d'Orléans, je fais la différence chaque week-end, pratiquement, et en aimant autant les uns que les autres, mais en voyant ce qui les sépare, ce qui attise les convoitises. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'un de mes films s'appelle Belle Famille. C'est que pour moi, la famille, c'est déjà l'endroit du spectacle. Pour l'enfant que j'étais, mais aussi quand j'en parlais avec mon frère, mes sœurs, pour moi, on arrive dans le château chaque week-end, mais on va chez le roi. On arrive chez le roi. Ma mère est une princesse et mon père est là comme
le prince consort.
Comment ?
Oui,
un prince consort, mais il y a d'autres femmes avec d'autres frères. Et alors voilà que arrive 1936 et je me souviens de cela, la perturbation que ça jette dans cette famille qui était l'image même de la réussite. Mon grand-père qui était le colporteur en 1890 et qui maintenant est là-haut sur son balcon à nous attendre, à nous faire des signes quand on arrive, dans l'allée centrale. Mais voilà que arrive 36 et le Front populaire. Il y a beaucoup de spectacles, le spectacle de la France même. Je vais sur la place du Mars 3 à Orléans, lors d'un défilé, mon grand-père m'emmène voir un défilé, les défilés du Front populaire. Et alors moi, j'entends ça, j'entends... le vrai slogan, c'était « Vive le Front populaire, les soviets partout ». Et moi, je comprends le coculaire, et ensuite les serviettes partout. Donc, au déjeuner du dimanche, je tourne la serviette autour de ma tête. On dit « Mais pourquoi de la serviette ?» Parce que c'est ce qu'il faut crier aujourd'hui. « Mais non, tu ne comprends rien !» Et les discussions de cette bande de patrons autour de la table dans ces années-là.
Mais il n'était pas favorable au Front populaire particulièrement en tant que patron aussi, non ?
Oh, écoutez, là, je vois que les images, mais il était forcément contre.
C'est ce qu'on imagine. Ouais,
oui.
Et donc, en 1939, quand la guerre commence, vous avez l'âge d'avoir des souvenirs, vous avez 7 ans.
Ah,
qu'est-ce
oui,
qui
là,
se passe ouais. pour vous et pour votre famille à ce moment-là ?
On avait vécu aussi toute cette enfance dans l'admiration de notre père, héros de 14. Enfin, comme héros de 14, bien qu'il n'y racontait jamais rien, mais bref, comme on voyait les médailles, on se disait, bon, il a dû faire des trucs. Et puis la guerre arrive, et voilà qu'il lui repart lieutenant d'artillerie, et laissant ma mère avec les enfants à la maison. Donc je me souviens évidemment de cela, de l'exode. Ma mère, un matin, nous embarque tous dans la voiture et avec quelques jours d'avance sur le reste de la population, file vers le sud. Et on s'est retrouvé près de Rodez, où on a passé l'été. Mais après la défaite, pour la rentrée en classe, donc c'est Albert qui est venu nous chercher. Mais il y a eu ce que j'ai vu tout au long de la guerre, c'est-à-dire... les attentistes, je ne vois pas de collaborateurs, heureusement. L'oncle Albert est parti en Angleterre, et il est revenu en 44. J'ai vu arriver un jour, avec son béret rouge de parachutiste, dans la cour de la maison d'Auxerre. Alors là, c'était plus mon père le héros, c'était alors Albert, qui était déjà le plus drôle, alors il était le plus brave. Voilà. Et un autre de mes oncles, Jean-Claude, qui était le plus jeune... Alors lui, par contre, est tombé amoureux. Est tombé amoureux d'une jeune fille d'Auxerre, dont nous étions amoureux en cachette, alors que nous avions 12 ans. Et puis voilà qui voilà que cet amour lui a tourné la tête. Il ne pensait qu'à ça. Et d'ailleurs, ils se sont mariés en 44. Donc, il y a de ça qu'on retrouve aussi dans...
La vie de château.
Dans la vie de château, c'est-à-dire que... Il y a Noiret qui est marié avec Catherine Deneuve, qui ne pense qu'à elle, alors qu'elle elle ne rêve que d'aller à Paris.
Et il y a un résistant,
alors on peut dire c'est le héros. Et alors, il y a donc Albert et Jean-Claude, on peut dire, dans le film.
Et parlons de... Donc, dans votre enfance, les premières choses qui vous ont marqué sont des lectures, avant les films.
Ah oui, bien sûr. Oui, c'est ça, c'est, évidemment, il y avait... Finalement, je n'ai été voir qu'un seul film, quand j'y repense vraiment, quand j'ai fait dans ma tête le conte, le seul film que j'ai vu avant la guerre, emmené par justement l'oncle Jean-Claude, c'était Romain des Bois, de Michael Gurkis.
Avec Errol Flynn.
Avec Errol Flynn. Et dans les temps qui ont suivi, pour moi, quand je pensais au cinéma, ou si on me disait, ou si on me parlait du cinéma, pour moi, le cinéma, c'était là où on se battait en duel. Et mine de rien, j'ai fait 3 films où les gens se battent en duel, parce que ça, pour moi, ça faisait partie de la panoplie de cinéastes, peut-être.
Oui, ils sont Le Marié de l'an 2, Cyrano et Le Hussard.
Et Le Hussard, toujours coaché dans les 3 films par Claude Carliez, ou le grand escrimeur du cinéma français, et son fils qui a pris la suite, qui est Michel Carliez. Mais arrive d'autres choses. Il y a aussi le théâtre. Voilà. C'est finalement le théâtre. Alors, je n'ai pas vu de film, mais j'ai vu des pièces. Voilà. Alors, ça doit être en 38, je pense. Ma mère nous emmène à Paris pour voir le Tour du Monde en 80 jours, d'après Jules Verne, qui était joué au Châtelet, dans une mise en scène extraordinaire, avec un train sur la scène. Et je me souviens encore de la fumée qui envahissait la salle, mais aussi, je crois, un bateau, mais aussi une jungle qui, enfin, extraordinaire. Bon, peut-être le goût du grand spectacle fait partie de cela.
Vous étiez un grand lecteur aussi, de Jules Verne notamment.
Ah oui, bien sûr. Parce que, évidemment, il n'y a pas de cinéma, pas de télévision, mais alors évidemment, des livres. Et bizarrement, toujours le 19e, quand je pense à ça, les livres qu'on lisait, enfin les livres qu'on nous offrait, c'était encore des livres du 19e siècle. C'est-à-dire que, c'est pour ça peut-être que je dis que le 19e s'est arrêté en 1950. C'est-à-dire que je lisais Jules Verne, Alexandre Dumas, Victor Hugo. Je crois que Notre-Dame de Paris, par exemple, je crois que c'est un des premiers livres que j'ai lu quand je commençais avec une scène qui m'avait bouleversé. La séduction d'Esmeralda. Par était-ce Frollo, Phébus, en tout cas pas de Quasimodo, mais enfin une scène très sensuelle et première émotion sensuelle grâce à Victor Hugo. Je ne sais pas quel âge j'avais, très jeune. Bon, en tout cas Hugo.
Et le théâtre bon. Aussi donc à l'époque.
Et le théâtre.
On n'allait pas au cinéma mais au théâtre.
Au théâtre, oui. Il y avait aussi pendant la guerre des troupes qui parcouraient la province. Puisque les acteurs avaient beaucoup de mal à Paris, du mal à se nourrir, d'ailleurs, vraiment. Donc, il y avait notamment une troupe qui s'appelait la troupe du Regain, qui avait été créée par un de la tribu Kazatsu, Christian Kazatsu, le frère de Gisèle Kazatsu, oui. Chaque année, il passait, j'ai vu Hamlet, et j'ai vu Lorraine Jachot, j'ai vu beaucoup de classiques. Mais je sais que quand j'ai vu Hamlet au Grand Casino d'Auxerre, j'ai trouvé ça si beau que dès le lendemain, j'ai dit à ma sœur Colette, ma sœur aînée, ben on va le jouer pour les parents. Alors donc, j'ai fait une petite mise en scène de Hamlet dans ce qu'on appelait le petit salon. J'ai mis un drap sur la tête de Colette pour faire le fantôme et on a joué la scène du rempart où Hamlet voit arriver le fantôme de son père. Ce qui m'avait le plus frappé d'ailleurs, c'est le rôle du père.
Et donc, Jean-Paul Rapneau, c'est après la guerre que vous commencez à aller plus régulièrement au cinéma.
Oui. Quand la guerre se termine, c'est 45, ça, donc alors j'ai 13 ans. Enfin, là, effectivement, il y a surtout cela, c'est que c'est la libération. Les Américains occupent la ville d'Auxerre, où j'étais toujours. Pour dire très vite, c'est que cette grande maison que nous avions, que nous louions, j'insiste là-dessus, parce que Le jour où mon père est mort, les propriétaires sont arrivés, ont détruit la maison et ont construit un immeuble à la place. Et pendant l'occupation, les Allemands avaient pris des chambres, des officiers allemands. Et quand les Américains sont arrivés en 1944, dans les mêmes chambres, il y avait les officiers américains. Je ne sais pas si c'était du même grade, mais enfin, en tout cas, il n'y avait que des officiers. Bon, alors, les Américains arrivent, tant de gens ont connu cela, dans cette atmosphère inouïe de la libération. Et évidemment, ce qu'ils amènent avec eux, c'est, sauf que la France avait été coupée pendant toute l'occupation, c'est leur film. Donc les films, les premiers films que je vois, ce sont des films américains. Je crois que le premier que je vois, ça commençait pas mal, c'était La ruée vers l'or, de Chaplin. Alors là, bon. Mais enfin, pratiquement après ça, j'y vais, je sais pas combien de fois par semaine. Et je vois les grands westerns, et je vois John Ford, et je vois ensuite les comédies musicales qui arrivent, et autant on emporte le vent quand ça arrive, enfin bref. Là, ça devient pour moi... on n'est plus dans Lorenzaccio joué par Christian Cazadesus, hein, on est dans autre chose.
Et Citizen Kane, donc.
Et Citizen Kane, au bout d'un moment, effectivement, en 1947, comme j'ai dit. Et là, le cinéma commençait à chauffer pas mal dans nos têtes. Je dis dans nos têtes, nous, la classe, quoi, pour les garçons de ma classe. Et moi, ce soir-là, oui... Quand je pense qu'il a tourné ce film, je continue à penser ça, parce que je le regarde assez régulièrement, finalement. Je dirais pas une fois par an, mais enfin, je l'ai montré à mes enfants, maintenant à mes petits-enfants. Et il avait 25 ans, c'est son premier film. Heureusement qu'il y avait Greg Toland, ce grand opérateur qui a inventé le style Kane, quoi, la façon de n'éclairer que ce qui était construit, et de pas éclairer ce qui était pas construit. Et faire ce noir et blanc extraordinaire. Enfin, bon, bref, ce film est magique, et en sortant de là, je me suis encore dans la rue, quand nous sortons de là, je me dis, oh là là là. Enfin, je me dis, c'est le seul métier possible.
Et votre premier film à vous, Jean-Paul Rapneau, on en parlera demain, puisque c'est ensemble que nous verrons vos débuts de cinéaste. À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Odile Conseil avec Jean-Paul Rapneau. À voix nue, réalisation Nathalie Salle, prise de son Georges Thau, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, se réécoutez ce podcast sur franceculture.fr et l'appli Radio France.